Nous recevons aujourd'hui dans le grand entretien de la matinale un neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il est chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Il est une voix bien connue sur les ondes et dans les débats qu'organise France Inter. Il publie un livre étonnant dont on va parler ce matin intitulé « Nous sommes tous des femmes savantes ». C'est chez Odile Jacob. Lionel Nakache, bonjour.
Bonjour.
Je plante le décor de votre livre comme au théâtre. Vous voilà assis en 2016, donc au théâtre de la Porte Saint-Martin, vous êtes venu voir Les Femmes Savantes de Molière. Mise en scène Catherine Yégel, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri sont à l'affiche. C'est une comédie, je la résume à très gros traits, une comédie de Molière qui voit une famille se déchirer entre trois femmes savantes qui placent les choses de l'esprit au sommet de l'existence et le reste de la famille donc qui reste plus que circonspecte devant ce cénacle où brille un pédant, le bien nommé Trissotin, dont le nom veut dire trois fois sot. Alors, quand on est neurologue, on l'est à plein temps, oui. Y compris au théâtre. Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux, Lionel Nakache, dans cette pièce classique qu'on a sans doute tous croisée au collège?
Bah oui, écoutez, c'est exactement comme ça, sans faire trop de storytelling, mais je me souviens encore vraiment précisément de cette soirée au théâtre. Ce qui m'a sauté aux yeux, en fait, dès la première scène, c'est que, comme vous l'avez parfaitement résumé, on décrit et Molière met en scène trois personnages féminins qui sont les femmes savantes officielles et qui opèrent une sorte de clivage entre d'un côté une sorte d'apologie de la connaissance, de la philosophie, des savoirs, du maîtrise de la langue, de la science, etc., mais qui se fait au prix d'une mise à l'écart de la sensualité, de la sexualité, du rapport au corps. Et bon, ça c'est là les personnages apparents. Mais dès la première scène, en fait, cette scène commence par un débat entre deux sœurs, une qui est une des femmes savantes, et puis l'autre en fait qui, au contraire, fait l'apologie de la sensualité, de la sexualité. Mais immédiatement, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que celle qu'on considérait plutôt normale ou plus saine, Henriette, pour la nommer, en fait, elle me paraissait immédiatement aussi pathologique que les autres, au sens où son apologie de la sexualité se faisait au prix d'une mise à distance, voire d'un mépris de la connaissance. Mmh. Et dès la première scène, et vous l'avez dit, c'est aussi parce qu'avec tout ce que j'avais en arrière-plan de les mécanismes de la subjectivité que j'explore à la fois au laboratoire, à l'hôpital, en neurologie, mais aussi dans mes livres, eh bien, très rapidement, dès la première scène, est née en moi l'hypothèse que cette pièce, qui est une comédie fabuleuse, n'est pas simplement une comédie, et plutôt vraiment, elle résonne aussi comme une tragédie.
Mais alors comment vous y arrivez à la tragédie, alors que c'est une pièce drôle?
Oui,
est-ce qui se finit bien?
On peut être tragique et drôle, hein, je veux dire.
Entièrement d'accord.
Houellebecq,
mais est-ce qu'on peut être une tragédie et une comédie en même temps? On peut être une tragicomédie, mais
voilà, c'est ça.
Vous voyez bien que...
Ouais, mais parce qu'en fait, comment on peut décaler la formule? En se disant, voilà, si Molière essaie de nous parler là, en réalité, à la fois de nos difficultés à vivre la connaissance et la sexualité, et qu'on se dit, examinons les personnages, il y a 10 personnages principaux. Quels sont les personnages qui arrivent à résoudre l'énigme, si on veut l'appeler comme ça, qui est l'énigme qui se pose à chacun d'entre nous, de vivre la connaissance et la sexualité de manière la plus épanouie possible? Eh bien, dès qu'on pose cette question et qu'on analyse les personnages, on se rend compte qu'effectivement, les trois femmes savantes ont un problème, mais les 7 autres personnages ont le même problème, mais avec des formules, disons, symptomatiques différentes, et personne n'arrive à résoudre ce problème, ce double défi. Et c'est en ça que je pense que ça résonne comme une tragédie.
Mais Lionel Nakache, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, certaines donc mettent à distance la sexualité, une autre met à distance le savoir. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'elles refusent? Pourquoi elles font ce choix, ces femmes?
Oui, alors docteur, c'est un choix qui s'impose presque à elles, on pourrait dire. Et ce ne sont pas que des femmes, du coup, parce que un des aspects intéressants de cette grille de lecture, c'est que la misogynie supposée de la pièce tombe, puisqu'en fait, les hommes et les femmes, nous sommes tous des femmes savantes. C'est pas une sorte de coming out, mais nous sommes vraiment tous des femmes savantes. Alors, qu'est-ce qui est le problème, d'après moi? Le problème, c'est que dans les deux cas, la sexualité et la connaissance, on pourrait dire, sont les deux catégories d'expériences parmi les plus essentielles de nos existences, et qui se manifestent par le fait d'être pénétré par quelque chose qui nous est extérieur, donc de se laisser pénétrer par quelque chose d'extérieur, en l'occurrence une information pour la connaissance, ou un rapport avec un corps sexué, si on va appeler ça pour la sexualité, et que ces rencontres entre l'information ou le corps sexué, va naître une transformation de soi, avec tout ce que Comfort appelle comme menace, le risque de se laisser transformer. Et ce que je pense, c'est qu'être une femme savante, ou un homme savant, c'est la même chose pour moi, c'est en réalité ne s'interdire aucune des possibilités de rencontre avec l'information ou la sexualité, et c'est peut-être une des formes de notre modernité, mais au prix d'avoir verrouillé, d'avoir cadenassé, d'avoir momifié notre subjectivité, c'est-à-dire de s'empêcher de se transformer par ces rencontres avec l'information ou la sexualité. Autrement dit, c'est une façon de se dire qu'on résume la sexualité ou la connaissance à cette notion de la rencontre avec quelque chose d'extérieur, alors qu'évidemment la rencontre est importante, mais elle ne résume pas ni la connaissance ni la sexualité, qui à mon sens ont leur richesse du fait que ces rencontres, qui sont nécessaires, vont provoquer une transformation de soi. Mais cette transformation, elle nous fait souvent peur. Et donc, une femme savante, pour moi, c'est quelqu'un qui ne renonce pas aux rencontres, en connaissance, en sexualité, on peut le voir dans le complotisme, dans plein de choses, mais qui, auparavant, avant même la rencontre, c'est empêcher de se transformer. Mmh. C'est ça pour moi cet aspect névrotique, on pourrait dire contemporain.
C'est le grand clivage selon vous dans connaissance et sexualité.
Le plus important. Le clivage entre on clive les deux parce que le clivage c'est de cliver la rencontre de la transformation, de se dire je ne vais pas renoncer aux rencontres. Prenons l'information. Le fait de se dire on a aujourd'hui une société de l'information, c'est une société qui ne nous empêche pas d'accéder de manière le plus évidente, la plus facile à des myriades d'informations. Mais pour autant, la plupart du temps, quand on accède à des informations qui sont vraiment nouvelles pour nous, le prix à payer, c'est qu'on risque de se transformer, de modifier nos croyances, nos jugements, nos a priori, etc. Mais ça, ça a un coût. Parce que vous et moi, et tout le monde, on est plutôt sur une posture de « je suis assez bien tel que je suis maintenant, j'ai pas tellement envie de changer ».
Oui, d'être bouleversé, ni transformé,
avec la peur de l'inconnu, si vous voulez.
D'où, Lionel Nakache, le fait que vous passiez très simplement, au fond, de Molière au complotisme.
Absolument, parce que
Expliquez l'enchaînement.
Oui, l'enchaînement, c'est qu'effectivement, si vous considérer que ce que Molière nous met sous les yeux ou nous laisse décrypter, c'est que les personnages qui, dans cette pièce, sont les femmes savantes officielles, celles qui font une apologie sans borne de la connaissance, en réalité, quand vous examinez leur rapport à la connaissance, aussi bien pour Philaminte, pour Armande, même Bélisse, disons, et bien ces trois personnages, et bien dans chaque cas, la connaissance est plutôt une sorte d'arme de combat. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être utilisé à des fins, pour une sorte de pouvoir, mais on perd la dimension première de la connaissance, qui est quand vous êtes un homme ou une femme de connaissance, et c'est le statut de chacun, l'enjeu premier, c'est de se laisser transformer, de savoir qu'on risque de plus être le même après, d'exercer le doute sur soi. Et ces trois personnages ne manifestent aucun doute en réalité. Elles ont un rapport très bizarre à la connaissance. Donc en réalité, on peut se rendre compte que leur façon de faire l'apologie de la connaissance, c'est pas une apologie de la connaissance au sens apologie d'une possibilité de se transformer, mais c'est apologie d'une sorte de rapport érudit, de pouvoir en donner à tout le monde, de dire voilà, je pense, il y a ça, 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 mais en s'empêchant toute transformation à l'avance.
Et le ou la complotiste, alors, fonctionne comment aujourd'hui?
Le complotisme, c'est quoi? Une des façons de voir le complotisme, c'est que quand vous discutez avec un complotiste, c'est là que c'est fascinant. Le complotiste va vous dire, vous savez, moi j'ai beaucoup plus de lucidité que vous, parce qu'en fait, moi je suis capable de voir en face quelque chose que les gens ne veulent pas voir. Autrement dit, c'est moi qui exerce du doute. Je remets en cause la véracité de tout. Est-ce que les hommes ont marché sur la Lune? Est-ce que le 11 septembre a eu lieu, etc. Ou dans le négationnisme, etc. Donc la caméra subjective du complotiste, c'est pas de dire je suis quelqu'un qui croit des choses bizarres. C'est moi, j'ai un esprit critique. Vous n'en avez pas. Mais en réalité, dès que vous examinez la structure de la pensée complotiste, la pensée complotiste met en avant une forme de doute. Sauf sur un élément, il y a une zone aveugle. C'est que la thèse. En général, il y en a une ou deux. La thèse qui tient à cœur du complotiste, sur cette thèse-là, il n'exerce aucun doute. Il sait à l'avance où il va aller. Et donc, dans la collision avec toutes les informations possibles sur Internet ou ailleurs, eh bien, il y aura ces biais de sélection qui vont faire « ça marche avec ce que je pense, donc ça, je le garde. Et ça, par contre, je le disqualifie. »
Donc, le complotiste, c'est quelqu'un qui, finalement, n'a plus d'esprit critique. Et donc, c'est là où vous dissociez la société de l'information et la société de la connaissance.
Oui. Oui, pour moi, une société de la connaissance, c'est que si on reprend cette idée que la connaissance, c'est deux événements. La rencontre avec l'information qui va pouvoir donner potentiellement lieu à une transformation de soi. Il faut les deux mécanismes. Je pense, et c'est pas un jugement de valeur, c'est une description, je pense qu'on a réussi depuis ce XVIIe siècle de Molière naissant à bâtir aujourd'hui une société de l'information. C'est-à-dire une société dans laquelle on a un accès, il faut le dire, beaucoup plus aisé, beaucoup plus évident, beaucoup plus facile, et on peut s'en réjouir, aux informations de toutes sortes. Voilà. Mais que pour autant, donc on a fait une société qui est, si vous voulez, façonnée sur l'accès aux informations. Mais que par contre, le terme le plus important, qui est le deuxième, c'est la capacité à accompagner la transformation de soi que présuppose la rencontre avec l'information. Ça, pour l'instant, on n'a pas encore réussi, parce que c'est le plus difficile, à bâtir une société qui prendrait en compte comment la caméra subjective de chacun d'entre nous est affectée par ses rencontres avec l'information. Et donc pour moi, c'est ça, une société de la connaissance, elle devrait davantage prendre en compte l'accompagnement de la transformation de soi, si on veut dire.
Et donc pour y arriver, en fait, le mot-clé, c'est peut-être le mot « effort », c'est-à-dire qu'avec cette facilité d'accès à l'information, notre subjectivité, nous l'oublions, en fait on s'oublie, on se néglige, c'est
oui,
ça.
Oui, en tout cas, il y a un des mécanismes, vous avez raison, c'est qu'une fois que j'ai bâti cette thèse, et en discutant notamment avec ma femme, Anne me dit, mais oui, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en réalité, il y a un phénomène, et qu'on retrouve dans les deux aspects, à la fois sur la thématique connaissance et sexualité, c'est que si on prend la connaissance dans l'accès à l'information, alors moi, j'ai 50 ans, et quand j'ai commencé la recherche dans les années 80, fin des années 80, quand vous, chaque semaine, vous aviez un petit bouquin, vous alliez le chercher à la main, vous lisiez avec beaucoup d'efforts les centaines de pages pour trouver les articles qui vous intéressaient, vous les stabilo-bossez, vous allez en librairie faire des photocopies, ou bien vous écrivez, ou vous allez dans une bibliothèque, vous vous déplacez, bref, beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, j'ai même plus rien à faire. En fait, j'ai des mots-clés comme tout le monde, et mes PDF ou mes fichiers HTML de tous mes articles m'arrivent le matin. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une disparition de l'effort fourni pour accéder à l'information. Mmh. Et que l'effort, en réalité, je ne fais pas une apologie de l'effort, hein, ce n'est pas une sorte d'apologie néo-bibliste accouche dans la douleur, mais qu'en tout cas, par l'effort, c'est une des manières de prendre conscience de soi. Non pas seulement de l'information, mais de moi qui suis en train de tracer cette information. Et d'une certaine manière, la suppression de l'effort, aussi bien dans la connaissance, la sexualité, je pense que MeToo, on n'aura pas le temps de le développer là,
si. Mais c'est un des points qu'on allez-y, dit, parce que vous y arrivez à partir de cette pièce qui a été décrite comme profondément misogyne, où les femmes savantes sont décrites comme des précieuses ridicules, où on a vu donc, une preuve par l'exemple qu'il ne fallait pas que les femmes soient éduquées, cultivées, et s'élève par l'esprit. Vous partez donc de là et vous arrivez à MeToo. Pourquoi ? Comment ?
Pourquoi ? Parce que le phénomène de MeToo, ce qui m'a, moi, comme je pense beaucoup d'entre nous, saisi, évidemment, c'est pas l'aspect, la criminalité sexuelle en soi, j'ai rien d'intéressant à dire. Il faut qu'elle soit condamnée, qu'elle soit jugée, qu'elle soit sanctionnée. Là-dessus, il y a rien à dire. Mais ce qui est plus étonnant, c'est qu'en réalité, il y a eu une sorte d'explosion planétaire, d'intérêt planétaire, initialement sur l'affaire Weinstein, et ensuite le MeToo. Le MeToo qui est initialement, proprement parlé, c'est-à-dire, moi aussi, je vais rapporter mon expérience de harcèlement ou de souffrance. Mais le point qui m'a, du coup, intéressé, c'est que dans ce phénomène planétaire-là, au-delà de la criminalité, je pense qu'il y a quelque chose qui touche chacun d'entre nous, qui est le fait de se dire, dans la sexualité, il y a, si on reprend ce terme entre la rencontre et la transformation, on a une société qui a plutôt fait une sorte d'effort pour développer l'accès, disons, la rencontre, de favoriser la rencontre, en faisant tomber des carcans sociaux, économiques, religieux, familiaux, etc. Mais que, et ça, c'est un des paramètres, mais que par contre, cette apologie, ou bien en tout cas ce développement de la rencontre, a fait perdre de vue, d'après moi, la transformation de soi, qui est aussi la partie la plus intéressante dans une relation sexuelle, c'est-à-dire une relation amoureuse, et qu'en réalité, le MeToo, on pourrait l'entendre comme la nécessité, la prise de conscience que dans la sexualité, c'est peut-être le moment de réintroduire davantage d'efforts et d'intérêts sur la transformation de soi. Et si, alors j'ai pas le temps de beaucoup le développer, mais l'idée est assez simple. Et si on fait cette idée, on peut se surprendre. Moi, j'étais surpris, c'est le jeu de l'écriture et des mots, que le slogan MeToo, on peut aussi l'entendre comme ça. MeToo, ça veut dire moi aussi, ça veut dire aussi dans la sexualité. Il y a la rencontre, mais il y a aussi moi. Moi, ça veut dire mon système de croyance, ma vision du monde, ma subjectivité, et qu'il ne faut pas oublier ce terme-là. Et donc, au-delà de la criminalité, MeToo peut être l'occasion de reprendre en compte, si vous voulez, la richesse de la subjectivité, de la transformation de la subjectivité qui est offerte par la sexualité ou la connaissance.
Lionel Dacache, il y a eu cette tribune en 2018 sur la liberté, dans le monde, sur la liberté d'importuner et la liberté sexuelle, signée notamment par Catherine Millet, Catherine Deneuve. Et vous le notez vous-même dans votre ouvrage, pas une femme de moins de 50 ans. Est-ce que certaines générations ont moins oublié leur subjectivité dans la relation à l'autre, dans la sexualité, que peut-être les plus jeunes générations.
Oui. C'est l'hypothèse que je formulais, c'est qu'en fait, si réellement cette forme de névrose moderne, elle est née au XVIIe siècle avec en fait ce mouvement, il faut revenir là-dessus, c'est que Molière, il vit une époque où on vit, c'est marrant d'ailleurs, la double libéralisation simultanée de la connaissance et de l'information, ce qu'on appelle la philosophie libertine, au sens noble du terme, et que c'est pas un hasard si les deux vont ensemble, parce que les deux sont un peu la même chose, connaissance et sexualité. Eh bien, si on accompagne ce mouvement et qu'on arrive aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, si ce que j'avais l'impression de toucher du doigt, c'est qu'on est dans une société qui a favorisé l'accès à l'information, l'accès à la sexualité, en faisant moins d'efforts sur la transformation de soi. Peut-être effectivement, c'est une hypothèse, hein, je ne suis pas sociologue, mais que les générations les plus jeunes, celles qui ont justement vivent et sont nées dans une structure d'information et de rencontre avec les outils numériques ou en général, peut-être sont celles qui sont les plus, non pas aveuglées, mais qui sont les moins lucides immédiatement de cette importance de la transformation de soi et qui du coup peuvent en souffrir plus et d'où l'apologie peut-être dans cette tribune et d'autres du fait de dire oui, il faut pas déconner sur MeToo, il y a dans MeToo quelque chose d'intéressant, mais par contre un aspect il y a aussi des aspects très négatifs dans ce phénomène-là, c'est pour ça qu'il est important de l'accompagner de manière intéressante. Mais vous avez raison, c'est l'hypothèse. Alors de manière très respectueuse, je notais que les signataires étaient toutes des femmes de plus de 50 ans et ça je trouvais que ça pouvait être un élément diagnostique intéressant.
Deux questions d'actualité avant d'ouvrir le dialogue avec les auditeurs. auditeurs. Votre hôpital, Lionel Nakache, la Salpêtrière, s'est retrouvé au cœur de l'actualité il y a tout juste une semaine, suite à la manifestation du 1er mai. Comment avez-vous vécu ces événements et l'immense emballement qu'ils ont suscité?
Moi, je crois que je les ai vécus comme la plupart d'entre nous. Ça veut dire que j'étais pas à l'hôpital le 1er mai, mais quand j'ai appris d'abord ce qui s'était passé immédiatement le soir même, j'ai d'abord été horrifié, et comme je pense beaucoup d'entre nous, de se dire si on en arrive à une situation où des manifestants sont capables de prendre d'assaut un hôpital, un des derniers lieux, on pourrait dire, où le rapport professionnel des gens, les gens sont payés pour servir des gens, pour s'occuper de leur santé. Si ça s'est tombé, c'est une catastrophe. Et puis évidemment, le lendemain, lorsqu'on voit les vidéos, lorsqu'on découvre ça, on pourrait dire c'est le double effet, c'est-à-dire qu'une seconde réaction de dégoût ou de colère, de se dire que si la veille, le soir, il y a, comme on apprend cette nouvelle, on peut être... Mais si par contre il y a une forme de manipulation, je ne sais pas à ce niveau-là, mais en tout cas s'il y a une utilisation de dire voilà, parce qu'en fait ces manifestants n'étaient pas une masse organisée qui était là, un commando d'assaut de la réanimation, et là ce qui est évidemment très grave, c'est que s'il y a une manipulation de cette information dès le début, c'est-à-dire que si dès le début certains savent qu'il ne s'agit pas de faire ça, ça devient extrêmement préoccupant. Donc j'ai la même réaction, je pense, que beaucoup d'entre nous, et que c'est très important là-dessus. La société d'information dont je parlais tout à l'heure, c'est une société qui favorise le fait que l'information est immédiatement accessible, sans effort, et à tout le monde. Et ça veut dire aussi qu'on a une responsabilité plus accrue qu'auparavant, parce qu'on peut enflammer des réactions immédiates, dans un autre livre j'appelais ça une forme d'épilepsie sociale, et donner en fait lieu à des réactions d'une impulsivité dingue. Donc on a une responsabilité, je pense, pour s'en occuper.
Vous en parlez depuis une semaine, entre vous à l'hôpital, entre les personnels hospitaliers?
Je crois qu'on en parle, mais qu'on n'en parle pas plus qu'à l'extérieur, parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qui a, comme je vous le dis, je ne sais pas quelle est votre impression, mais qui a secoué toute la société, de se dire, au-delà de la Salpêtrière, pas seulement les travailleurs de la Salpêtrière.
Je voudrais vous mettre sous les yeux également ce matin la une du quotidien Libération consacrée aux antidouleurs. Addiction, danger, tramadol, codéine, morphine, face au nombre croissant d'illibés de patients dépendants à ces antalgiques dérivés de l'opium, les autorités sanitaires françaises redoublent de vigilance. Votre lecture de ce problème massif de santé publique aux États-Unis et dit Libération, attention à ce que ça n'arrive pas en France.
Oui, peut-être deux réactions rapides. La première, c'est qu'effectivement, l'addiction à des substances pharmacologiques comme ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que, si vous voulez, il peut y avoir des facteurs récréatifs ou sociaux qui permettent d'arriver à la rencontre avec ces drogues. Mais une fois qu'on les rencontre, en général, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que, pour le dire rapidement, quand on vit une expérience, agréable ou pas, on a dans notre cerveau des systèmes qui nous permettent de coder cette information agréable ou pas. Et quand vous prenez une substance de ce type addictive, en réalité, c'est comme si vous faisiez une sorte de trafic où la substance que vous prenez, c'est elle-même une des substances qui est utilisée par le cerveau pour représenter le plaisir. Donc, c'est comme si on vous inonde immédiatement d'une quantité astronomique de quelque chose qui va être vécu comme du plaisir. Et à ce moment-là, on pourrait dire qu'on rentre dans une forme de tyrannie. C'est qu'on n'est plus dans une sorte de, entre guillemets, libre exercice de ma façon de prendre du plaisir ou pas, ou du déplaisir dans une situation, mais c'est de me voir imposer une réaction immédiate contre laquelle je ne peux rien faire. Donc c'est très dangereux.
Sauf que là, au départ, et c'est ce que montre bien Libération, ce sont des malades, des patients qui se sont retrouvés obligés, entre guillemets, faute de mieux, de prendre ces médicaments-là, et qui, au fil du temps, se retrouvent dans un état de dépendance
absolue. Oui, il y a ça. C'est pour ça que ça doit être extrêmement aussi accompagné. Et l'autre point que vous soulignez peut-être, c'est que, comme tous ces aspects à double facette, il y a aussi des aspects qui peuvent être intéressants. C'est-à-dire que, par exemple, en neurologie, dans différentes situations médicales, il y a certaines substances, je pense par exemple aux cannabinoïdes, qui connaissent un nouveau développement à des fins thérapeutiques. C'était connu avant pour la douleur, etc. Mais on a, quelques semaines, j'étais à un congrès avec des collègues, il y a des formes d'épilepsie, le syndrome de Dravet, par exemple, qui est très amélioré par l'usage de cannabinoïdes à visée thérapeutique. Donc, c'est comme tous ces phénomènes qui ont une double
face. Vous êtes favorable à ce que ça arrive sur le marché?
De manière encadrée, et je pense au contraire très encadrée, parce que une fois qu'on est dedans, par contre, on est dans une tyrannie si c'est pas encadré. Ouais.
Allez, on file au standard, on nous attend Angèle. Bonjour Angèle, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous avez la parole, bonjour.
Oui, j'ai une question à Monsieur Nakache, j'ai écouté tout ce qu'il a dit, pas grand chose à voir avec ce qui précède, mais qui me tenait quand même un peu à cœur, parce que je l'ai souvent entendu sur France Inter, et je pense qu'il est peut-être qu'il peut me dire quelque chose là-dessus. C'est dans la notion de nature et culture qui a été très en vogue dans les années 70 et peut-être 80, et ces deux termes, on nourrit beaucoup de polémiques à cette époque, Et je voudrais savoir, maintenant que je suis plus dans le style des études, où en sont les neurosciences par rapport à ce à ces deux concepts.
Merci beaucoup Angèle. Lionel Nakache, je vous réponds.
Bonjour Angèle et merci pour votre question. Alors elle pourrait nous emmener toute la journée parce que comme vous savez, évidemment, ce thème de nature et culture, c'est un thème qui d'ailleurs, au-delà des neurosciences, on pourrait dire connaît une nouvelle vie. Et ce qu'on pourrait dire de manière non dogmatique, non idéologique, c'est que la période intéressante que nous vivons, c'est de voir à quel point, là aussi, ce clivage qui avait été opéré entre nature et culture, il peut être revisité. Autrement dit, à quel point on peut, ce qu'on appelle la naturalisation de la culture, c'est non pas la suppression de la culture, mais c'est de comprendre comment l'émergence des cultures humaines, eh bien, c'est pas un phénomène qui tombe du ciel, que l'émergence des cultures humaines, elle peut commencer à être expliqué par l'interaction d'individus qui ont leur cerveau, qui sont dans un bain social, qui sont soumis aussi à des relations aussi avec un héritage historique, culturel, et que l'idée c'est de comprendre, même pour des choses extrêmement élémentaires, quelles sont la forme des lettres qu'on utilise, par exemple l'arbitraire du signifiant ou ce qui a été posé pour le langage, etc., de revisiter ça, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, de se rendre compte à quel point, en réalité, nos objets culturels sont façonnés, parce que la nature de l'homme, c'est d'être culturel, pour le dire.
Vous dites aussi que l'identité sexuelle, la représentation que je m'en fais avec ma subjectivité, ça dépend en réalité des relations qu'on a avec autrui. Donc ça n'est pas que naturel, c'est ça ?
Oui, mais vous savez, dans le relation avec autrui, ça fait partie du naturel. C'est-à-dire que, justement, là-dessus, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça vous oblige à pousser votre modèle interne. Vous dire, ce que j'appelle le naturel, c'est pas un cerveau dans un bocal, par exemple. Si vous voulez avoir une bonne description du naturel, prenons l'aspect neurosciences. Le cerveau sans le corps, il ne fait pas grand-chose. Et le cerveau dans un corps sans interaction avec d'autres cerveaux dans d'autres corps, il ne fait pas grand-chose. Pas de langage, pas de conscience, pas de construction culturelle complexe. Donc, en réalité, l'équation aujourd'hui, c'est de repenser le naturel et le culturel comme étant quelque chose qui coémerge, qui sont ensemble, parce que la dimension propre de l'homme, c'est d'être culturel. Et il y a, on pourrait dire même, un déterminisme naturel à être culturel. Et c'est là que ça devient un peu vertigineux.
Benoît est au standard. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci, je rebondissais sur le mot transformation là qui m'a interpellé, que je trouve très passionnant. Je fais un petit pas de côté, mais je vais revenir au sujet. Je posais la question si le regard de mon chien, mon animal de compagnie sur moi-même était le même que celui de ma femme. Et en y réfléchissant, je trouvais qu'on pouvait conclure que le regard de mon chien me conforte tel que je suis et que le regard de ma femme me transforme. Et je voulais avoir votre avis là-dessus.
De regards pleins d'amour, c'est ça ce que vous voulez dire, Benoît ? Que je comprenne bien, hein, parce que c'est... Bon, la question est brute de décoffrage, même oui, si sur la transformation, on imagine qu'elle peut être belle.
Oui, voilà. Je vous remercie.
Merci c'est une question, Lionel. Merci Benoît, Lionel Nakache, je vous réponds.
C'est une question qui m'intéresse beaucoup, Benoît, ce que vous dites, parce qu'effectivement, un des aspects que je développe dans ce livre, c'est que la relation à quelqu'un d'autre, et notamment la relation amicale, et surtout la relation amoureuse, donc celle que vous décriviez, par exemple, avec votre femme, je pense qu'on peut la décrypter justement comme une sorte de jeu de miroir entre deux subjectivités. Et que la subjectivité d'un homme et la subjectivité d'un chien, si on veut parler comme ça, c'est, même s'il y a évidemment des points, il y a une architecture, une évolution qui fait que dans le chien, il se passe beaucoup de processus cognitifs et émotionnels, c'est une évidence. Mais néanmoins, la richesse des représentations conscientes, symboliques, verbales qu'il y a entre deux êtres humains, qui s'aiment, est évidemment a un pouvoir de transformation de soi beaucoup plus important. Et qu'en réalité, quand vous êtes engagé dans une relation amoureuse, ce qui se passe, d'après moi, c'est aussi que la manière de laquelle vous observez que votre partenaire vous observe et vous représente, se représente qui vous êtes, ça vous donne des clés sur qui vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes capable d'apprendre des choses sur vous par la manière dont quelqu'un d'autre est en train de vous représenter vous-même. Ça demande de la confiance, puisque évidemment vous pouvez sinon vous dire quel est ce type d'image de moi qu'on me renvoie, et que dans cette histoire de la relation amoureuse, qui est vraiment l'histoire dont je parlais tout à l'heure, une rencontre, puis une transformation.
Oui, on peut vivre intensément sans être amoureux non plus.
Ah oui, bien sûr. Mais là, on parle, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette rencontre-là ? Je vous sens un peu réticent sur la tension amoureuse.
Non, mais il y a une espèce de survalorisation de l'amour, que ce soit chez les philosophes ou chez vous, les neurosciences, dont je m'étonne.
Non, moi, je fais pas une survalorisation. J'essaie de décrire un peu ce qui se
passe. Vous venez dire que c'est un état de conscience magnifique. C'est transformation.
En tout cas, c'est une occasion de transformation, absolument. Mais une occasion de transformation qui peut s'éclairer. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous êtes en train de faire la rencontre de quelqu'un que vous appréciez, et vous vous rendez compte que ce quelqu'un qui vous apprécie aussi, eh bien, vous vous dites qu'est-ce qu'il pense de moi, et que vous plongez dans sa représentation qu'il a de vous, eh bien vous changez. Et il y a une sorte de double hélice, c'est-à-dire que vous changez, l'autre se change, et cette co-transformation, alors elle n'est pas nécessairement heureuse, c'est pas ça ce que j'ai dit, mais en tout cas elle existe.
Et que faites-vous face à ces cerveaux, à ces esprits, à ces consciences, disons, déréglées ? On parlait tout à l'heure des complotistes. Que faites-vous pour les convaincre de faire un chemin inverse, finalement, de ne pas résister à cette transformation dont vous dites que, positive ou négative, en tout cas elle est souhaitable ?
Oui, alors moi, je fais pas, au-delà d'écrire ce livre, je fais pas grand chose pour l'instant. Mais ce que je crois, et puis je suis pas un apôtre, mais ce que je pense, c'est que ce statut de femme savante qui est le nôtre, la première manière d'arriver à s'en libérer d'une manière, c'est d'en prendre conscience. Mais en prendre conscience, c'est un pas énorme. C'est-à-dire prendre conscience qu'effectivement, dans notre rapport aux autres et à l'information, on a tendance à se verrouiller et à ne pas se laisser transformer par quelque chose. Le savoir, ça vous empêche pas de l'être, mais ça vous fait vous concevoir vous-même de manière totalement différente. Je pense que c'est un pas, une possible liberté telle qu'on peut l'entendre. Mais
Lionel Nakache, merci.
Merci à vous.
Nous sommes tous des femmes savantes et donc publié aux éditions Odile Jacob. Merci,
merci beaucoup
d'être venu en parler ce matin sur France Inter et merci d'avoir dialogué avec les auditeurs.